France Inter. Le 13-14.
Le vif de l'histoire. Les prêtres ayant connaissance de crimes sur des enfants doivent porter ces faits à la justice et ne pas y opposer le secret de la confession. Rappel du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin hier, après sa rencontre avec le président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur de Moulin-Beaufort. Tout cela après la publication du rapport de la commission Sauvé. Monseigneur de Moulin-Beaufort avait déclaré la semaine dernière que le secret de la confession était supérieur aux lois de la République. Il a plaidé hier la maladresse, demandé pardon à ceux qu'il a pu choquer. Alors avec vous Jean, histoire de ce sacrement de la confession, relativement récent, très modérément pratiqué par les catholiques, au mot confession est associé celui de secret. Il faudrait peut-être utiliser un terme plus ancien, pénitence. Pénitence qui à ses débuts était public.
Vous me permettez d'enjamber les siècles, on n'est pas dans l'actualité.
Hein, non, Renaud. Allez-y.
L'abbé du monastère du Bec-et-Loing me disait un jour, vous êtes historien, ça tombe bien, je compte en millénaires. Il paraît qu'il y a un siècle, autant dire rien, Max Jacob, le merveilleux poète, se jetait au pied de l'autel, au petit matin, à Montmartre, et il racontait tout beau ses frasques de la nuit devant les paroissiens interloqués. Moyennant quoi, il se sentait libre de récidiver. Il n'avait pas complètement tort. Les premiers chrétiens qui avaient reçu de l'eau lustrale du baptême, une force à toute épreuve...
L'eau lustrale, c'est l'eau qui purifie.
Oui. Avouaient leurs fautes en public, se concentrant sur les plus graves, face à la communauté du secours de laquelle ils espéraient la réconciliation. Et cette tradition s'est prolongée dans les monastères, où les frères battent leur culpe
devant les autres.
Oui, ça, la poitrine. En attendant la correction fraternelle. Les seules autorités à intervenir sont... Alors, l'évêque et le père abbé. Mais les fidèles sont devenus de plus en plus nombreux et les péchés semblent avoir connu une courbe exponentielle. À la fin du 6e siècle, on n'est pas dans l'actualité, un moine irlandais, Saint Colomban, pousse à l'individuation de la pénitence en établissant une tarification des peines. Au 12e siècle, vous voyez comment les évolutions sont lentes.
6 siècles plus tard.
Le clergé perfectionne le dispositif. Les prêtres privilégient dans l'exercice l'absolution qu'ils ont seuls le pouvoir de donner. L'absolution est performative, elle permet de reprendre, alléger la route vers le salut. Et au concile du Latran, en 1215, un siècle plus tard, le lien est établi avec l'Eucharistie, aller à confesse une fois l'an permet de recevoir la communion à Pâques.
1215, 13e siècle donc, c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que le secret est imposé au confesseur.
C'est pour le clergé une manière de montrer son exceptionnalité. Le secret de la confession est entendu de suite comme une manière de tenir tête au pouvoir politique. Exemple, au XIVe siècle.
On avance.
Un siècle plus tard. Saint Jean Népomucène.
Oui.
Bah oui, une fameuse statue le représente sur le pont Charles à Prague, à l'endroit précis où le roi de Bohême l'a fait jeter à la rivière. La légende veut que Venceslas soupçonnait sa femme d'adultère et que le saint avait refusé de lui répéter ce qu'elle lui avait dit en confession. Moi, j'aime imaginer que Monseigneur de Moulin-Beaufort, hier, a entretenu le ministre de l'Intérieur de Saint-Jean-Nepomucène.
Peut-être qu'il lui a parlé aussi des grandes figures de prêtres dans la littérature et le cinéma.
Bah oui, je vois Monseigneur de Moulin-Beaufort citer par exemple le journal du curé de campagne de Bernanos, 1936, le curé de Torcy qui dit « Par la confession, faites de l'ordre !» À longueur de journée, car la nuit vous fiche en l'air votre travail de la veille. L'Église se moque que vous soyez aimés, les prêtres. Soyez respectés, obéis. Vous n'êtes pas le miel de la terre, vous êtes le sel de la terre. Et puis Darmanin aurait parlé de Jean-Paul Belmondo, par exemple. Léon Morin, prêtre, dans sa petite boîte, nommé confessionnal face à Emmanuel Riva. Sans le secret, ces personnages si romanesques perdraient beaucoup de leur relief. Pensons à la loi du silence, Hitchcock, 1953. Un homme s'est couvert d'une soutane pour commettre un meurtre. Il s'en confesse au père Logan. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est le père qui va être accusé. Il sait, est-ce qu'il va lui falloir se taire?
Et est-ce que les criminels sont portés à se confesser?
Statistiquement, il paraît que non. Les pédocriminels encore moins. Et les prêtres pédocriminels encore moins que moins. Mais statistiquement, aujourd'hui, les catholiques non plus. Dès les années 1960, c'est par la désertion de la confession que l'Église a commencé à faire haut. Et comment a-t-elle tenté de réagir? En revenant à l'idée de la pénitence publique des premiers temps. Elle a organisé pendant un moment ce qu'on appelait des cérémonies pénitentielles. Souvenez-vous de votre confirmation en Vendée, Bruno, où chacun en assemblée formulait sa contrition dans la forme qu'il souhaitait et où l'absolution était collective. Monseigneur de Moulins-Beaufort s'en souvient-il? C'est l'Église elle-même qu'il y a un demi-siècle, il n'y a rien, a exprimé le désir d'ouvrir les confessionnaux.
Merci monsieur. 13h58 sur France Inter, bientôt la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Quel est le programme?
Eh bien nous allons nous balader aux frontières de l'humain.
Avec plaisir, à tout de suite.
France Inter.